Voilà, alors maintenant, c'est la troisième partie. L'islam comme religion abrahamique. On pourrait aussi intituler cette partie le prophétisme islamique. Vous savez que les musulmans disent que leur religion est la religion d'Abraham. Hein ? Et puis, souvent, on entend parler des trois religions abrahamiques, qui incluent le judaïsme, le christianisme et l'islam. Seulement, comme c'est source de confusion, donc, c'est un point à bien clarifier. On va voir ça. Alors, bon, c'est vrai que tout comme le judaïsme et le christianisme, l'islam se réclame d'Abraham. À travers cette référence, c'est la question du prophétisme qui est posée. Voyons ce qu'il en est dans l'islam. Bien sûr, il est tout à fait juste de dire que la religion musulmane est un monothéisme de type prophétique. Monothéisme de type prophétique, étant donné que son credo comporte la croyance en l'existence de prophètes. Vous trouverez ça à la sourate 2, verset 136, où on peut lire, c'est donc une dictée de Dieu. « Dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, Jésus à Issa, bien sûr, à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, aux prophètes au pluriel. Alors, le Coran ajoute, nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Ça, c'est ambigu. Voilà. Ce sont des sourates 2, verset 136. L'existence des prophètes est attestée dans le Coran et il est demandé aux musulmans d'y croire. En outre, le Coran relate la mission des prophètes. Mais maintenant, il faut voir qui sont ces prophètes. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, qui sont ces prophètes ? Alors, au risque de vous surprendre, le Coran mentionne l'existence de 124 000 prophètes. Oui, oui. Mais heureusement pour nous, tous les noms de ces 124 000 ne sont pas donnés, sinon on n'en sortirait pas. En tout cas, il est question de 124 000 prophètes dans l'histoire. En fait, alors, il y a deux catégories de prophètes qu'il faut bien comprendre. Deux sortes de prophètes. Alors, je vous les indique, après je vous explique. La première catégorie, c'est le Nabi. N-A-B-I. Le Nabi est un prophète inspiré, mais sans mission spéciale autre que de rappeler le monothéisme. Tout à l'heure, je vous ai parlé du pacte primordial, hein, l'islam. Hein. Alors, donc, ces prophètes Nabi, prophètes inspirés, n'ont pour seule mission que de rappeler aux hommes le monothéisme initial. La deuxième catégorie, qui lui est supérieure, donc, c'est le Rasoul. Le Rasoul, R-A-2-S-O-U-L, est un envoyé qui, lui, a une mission spéciale. C'est pourquoi on dit aussi messager, pour le décrire. Le Rasoul est un envoyé avec une mission spéciale qui justifie qu'on l'appelle aussi messager. Alors, je poursuis avant de vous expliquer. Notez bien ceci, c'est que tout envoyé, c'est-à-dire tout Rasoul, l'élément de la deuxième catégorie, est prophète Nabi. Mais tout prophète Nabi n'est pas un envoyé Rasoul. Je répète. Tout envoyé Rasoul est un prophète Nabi, mais tout prophète Nabi n'est pas un envoyé Rasoul. En fait, parmi les envoyés, seul un petit nombre peut être considéré comme Rasoul. Ce sont ceux qui ont été chargés par Dieu de transmettre des livres sacrés. Des livres sacrés au contenu toujours identique et immuable. Alors, ces prophètes qui sont à la fois Rasoul et Nabi sont Moïse, Jésus et Mahomet. Vous avez bien compris là ? Alors, les deux premiers, c'est-à-dire Moïse et Jésus, oui, ont été envoyés à des peuples particuliers. Toujours, bien sûr, selon la tradition musulmane. Ont été envoyés à des peuples particuliers. La Torah donnée au peuple hébreu par Moïse. Et l'Évangile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au peuple juif, descendant des Hébreux aussi, par Jésus. Mais en plus de ça, le Coran fait état des psaumes. Ça, c'est très énigmatique. Il est question des psaumes donnés par Dieu à David. Oui, voilà ce que Dieu dit. « Et nous avions donné des psaumes à David » dans la sourate 4, verset 163, et aussi sourate 17, verset 55. Alors, il y a cette mention-là, mais le contenu des psaumes n'est pas repris de manière suivie dans le Coran, et ils ne sont donc pas enseignés comme tels. On trouve simplement des échos des psaumes, de certains psaumes, dans certains passages du Coran. Donc, on n'a pas les 150 psaumes que nous avons, nous, dans l'Ancien Testament. Voilà, il en est question, mais ceux qui ont été retenus, ce sont des bribes, si vous voulez. Voyez. Et puis, de toute façon, les musulmans n'apprennent pas les psaumes tels que nous les connaissons. Là, c'est quelque chose qui est énigmatique, mais il y a bien d'autres choses qui sont énigmatiques dans le Coran. Alors, donc, Moïse a été envoyé à un peuple particulier, Jésus, Aïssa, à un peuple particulier. En revanche, le dernier prophète, le dernier Rasoul Nabi, à Mahomet, donc, lui, alors qu'au début, il avait une mission réservée aux Arabes, quand c'était à la Mecque, à partir de Médine, sa vocation devient universelle. Donc, il est chargé d'apporter le Coran, de transmettre le Coran plutôt. C'est pour ça que je vous ai dit à la Mecque, il se faisait appeler le transmetteur. Et le Coran, donc, doit être accepté par le monde entier, tôt ou tard. Mission universelle. Alors, on trouve parmi les personnages prophétiques, on trouve dans le Coran la mention de personnages dont les noms sont des noms arabes, qui remontent à avant l'arrivée de l'islam, mais qui sont inconnus de la Bible. On a aussi, parmi les prophètes, c'est très étrange, Alexandre le Grand. Ben oui, c'est comme ça. Alors, en plus, il y a 22 figures bibliques. Dans le Coran, on trouve 22 noms de personnages qui sont les mêmes noms que ceux de la Bible. Mais vous allez voir qu'en fait, ce sont, là aussi, on pourrait toujours dire la même chose, ce sont les mêmes et pas les mêmes. Alors, tous les personnages dont les noms se retrouvent dans la Bible et dans le Coran sont tous appelés prophètes. Même des personnages qui, du point de vue biblique, ne sont pas des prophètes. Par exemple, Adam. Adam, dans le Coran, est un prophète. Noé est un prophète. Moïse aussi. Salomon et David, qui sont des rois, sont des prophètes. Et ainsi que le prophète juif Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste aussi, mais Jean, ce n'est pas le baptiste. Il n'y a pas de baptême dans l'islam, je vous expliquerai. Donc c'est Jean. Alors, en fait, seul le prophète Joseph, je vous l'ai déjà dit, de l'Ancien Testament, bénéficie d'une histoire en continu qui fait l'objet d'une seule sourate, la 12e. Tout ce qui concerne les autres prophètes, entre guillemets, sont leur vie, leur caractère, ou etc. Tout ce qui les concerne, en tout cas, tout ça est éparpillé un peu partout dans le Coran et ça fait l'objet d'évocations fragmentaires. Alors, le Coran reprend les noms de 18 personnages de l'Ancien Testament et 4 du Nouveau Testament. Il est évident que l'influence de l'Ancien Testament est beaucoup plus importante sur le Coran que celle du Nouveau Testament. Alors les 4 du Nouveau Testament, je vous les énumère, donc Zacharie avec son fils Jean, Marie et Jésus. Donc, il y a une grande différence entre les passages relatifs à ces personnages selon qu'on est dans la Bible ou dans le Coran. En fait, la doctrine coranique opère des sélections et des transformations destinées à inscrire ces illustres personnages dans la logique de l'islam, qui est une logique divergente par rapport à la perspective biblique. Vous vous rappelez, je vous ai déjà dit, un élément essentiel, c'est qu'il n'y a pas de rédemption. L'islam n'est pas une religion de rédemption. Les personnages qui sont dans le Coran ne sont pas là pour préparer un peuple à accueillir le Messie. D'ailleurs, donc, comme je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, le Coran omet de signaler certains noms et certains épisodes que l'on trouve dans l'Ancien Testament et qui sont absolument essentiels pour la perspective biblique. En fait, le Coran ne retient que les personnages de la Bible qui ont une vocation à édifier et à servir d'exemple aux musulmans. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a ni Isaïe, ni Jérémie, ni Ézéchiel dans le Coran, c'est quand même très significatif. En outre, il y a une chose à observer, c'est également très, très étrange de notre point de vue, disons. Les événements qui sont plus ou moins communs à la Bible et au Coran, dans le Coran, ne sont pas situés dans l'espace, ne sont situés ni dans l'espace ni dans le temps. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux récits d'annonciation dans le Coran. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des similitudes avec le récit de l'évangile selon Saint Luc, mais on ne sait pas quand ça s'est passé ni où. Par exemple, il n'est pas question de Nazareth. Oui. Ni évidemment. Et puis je vous ai parlé de la généalogie incertaine de Marie, qui est présentée tantôt comme la sœur de Moïse et d'Aaron, et tantôt comme et en même temps comme la mère de Jésus. Donc voilà un exemple d'événement qui n'est pas situé dans l'espace et le temps. C'est pareil pour la naissance de Jésus à Issa. Cette naissance est racontée comme ayant eu lieu au pied d'un palmier, mais on ne sait pas dans quelle contrée se trouve le palmier en question, et il n'est pas question de Bethléem. Et puis, ceux qui vont à Bethléem, je ne sais pas si vous y êtes allés déjà, eh bien, ce n'est pas un paysage de palmiers. Hein. Oui. Ben oui, ce n'est pas le désert. Donc, vous voyez, il faut parler d'emprunts bibliques, des emprunts bibliques, qui sont en plus déformés.